du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'espère, mes bien chers frères, que vous avez pu profiter de cette semaine, cette octave incroyable, pour non seulement vous livrer aux agapes d'usage après ce carême si dur, mais surtout pour lire quelques-uns de ces récits émouvants du Christ ressuscité qui apparaît à chacun de ses proches, les saintes femmes, les apôtres. Chacun d'entre ceux qui entouraient le Christ a eu le privilège d'une apparition toute particulière. Vous savez combien le Seigneur s'est adapté lorsqu'il est apparu ressuscité au tempérament de chacun. C'est magnifique, on y voit toute la délicatesse de Jésus. Si tel n'était pas le cas, c'est-à-dire si, laissant primer les agapes sur la lecture de l'Écriture sainte, vous n'avez pas pu vous plonger dans ces textes, au moins aurez-vous écouté l'Évangile d'aujourd'hui, qui est une sorte de récapitulatif ou une sorte de bouquet final de ces apparitions de Jésus à ses proches. Il me semble que le sentiment qui anime chacun de ces témoins des manifestations du Christ, qu'ils soient dubitatifs, comme les apôtres, ces bons hommes, des durs à cuire, dont la caboche est un peu sèche, il y a une semaine déjà, le jour même de la résurrection, ou je veux dire dans la nuit de la résurrection, ou saint Thomas aujourd'hui, ou qu'ils adhèrent spontanément comme les saintes femmes, quoi qu'il en soit, de leur posture face au Christ ressuscité, tous sont étonnés. C'est un étonnement qui est bien compréhensible à plusieurs égards. D'abord et surtout parce que se retrouver nez à nez avec quelqu'un qu'on a vu mourir et sur le tombeau duquel on est allé se recueillir et pleurer, ça n'est pas très commun. Encore que les disciples aient déjà été témoins de miracles du même type. Souvenez-vous, il y a trois récits de réanimation. Je préfère ce terme à résurrection parce qu'il a fallu encore que ces gens-là, sortis du tombeau, continuent à vivre et meurent un jour. Donc ce n'est pas une vraie résurrection. Bref, ce genre de miracle où quelqu'un se lève du tombeau, songez au fils de la veuve de Naïm, songez à la fille de Jaïr, ou songez surtout, il y a quelques jours seulement, à la résurrection de ce cher Lazare de Béthanie, les apôtres avaient déjà vu cela. En outre, on peut comprendre tout de même que les apôtres et les saintes femmes soient très étonnés devant ce Jésus ressuscité parce que, bien que ce soit le même Seigneur qui leur apparaisse, ils le reconnaissent tout de même, à la fin, ils ont été frappés par les nouvelles caractéristiques, les nouvelles propriétés de son corps. Voilà que Jésus passe les murailles, il apparaît, disparaît en un claquement de doigts sans que les apôtres n'y comprennent rien. C'est cette propriété tout à fait particulière du corps ressuscité de Jésus qui n'a rien à voir pour le coup avec le corps sorti du tombeau de Lazare par exemple, qui frappa d'étonnement, et on le comprend, les apôtres et les saintes femmes. Et pourtant, à bien y réfléchir, cet étonnement n'aurait pas dû avoir lieu. Facile à dire lorsqu'on n'a pas été en présence du Seigneur vivant, puis mort, puis ressuscité. Mais j'y insiste, cet étonnement n'aurait pas dû avoir lieu. Pourquoi ? Parce que Jésus l'avait dit à ses apôtres avant de mourir, il était la vie. Et parce que les apôtres l'avaient d'ailleurs confessé comme le Fils éternel de Dieu, venu dans la chair. Le Verbe par lequel tout a été fait, et à l'égard duquel la mort n'aurait pas d'aucune manière pu avoir le dernier mot. Il était évident, il était certain que Jésus, étant le Fils éternel de Dieu, ne pourrait pas en rester à ce corps inerte mis dans le tombeau. Il était nécessaire que Jésus ressuscite. Et c'est, je pense, à froid, quelques jours après cet étonnement primordial, que les apôtres et les saintes femmes ont dû un petit peu sourire de leur propre réaction en se disant « mais c'était pourtant évident ». Qu'il n'allait pas en rester là et qu'il allait sortir du tombeau. Pourquoi nous sommes-nous étonnés comme cela ? Ce qui, en revanche, ne laisse pas d'étonner, il est bien normal que nous soyons étonnés, de génération en génération dans l'Église, et c'est un fait tout à fait inattendu. Encore une fois, que le prince de la vie, que le Verbe éternel sorte du tombeau, qu'il ressuscite son propre corps, c'était justice. Mais qu'il offre, c'est là la nouveauté, la résurrection à ses créatures, voilà quelque chose de tout à fait déroutant. Nous avions mérité la mort, ou nos premiers parents l'avaient mérité pour nous, mais nous n'aurions pas mieux fait qu'eux. Nous avions mérité la mort, nous avions perdu ce privilège d'immortalité, et voilà que Jésus accepte de nous donner part à sa résurrection. Ça, c'est quelque chose d'éminemment gratuit de sa part, quelque chose qui doit nous étonner, qui doit nous surprendre, plus que nous ne le sommes d'habitude, à mon sens. Mais il y a mieux encore que cette participation inattendue de la créature à la résurrection. Cette résurrection, Jésus a choisi de ne pas nous la communiquer seulement demain, dans un demain improbable, c'est-à-dire, ou improbable, qui va advenir parce que Jésus l'a promis, mais nous ne savons ni le jour ni l'heure, alors nous pouvons perdre patience. Ce demain de la parousie, du retour du Christ dans la gloire, et à la trompette de l'archange, vous savez, comme nous le dit l'Apocalypse, les corps sortiront des tombeaux, cette perspective-là n'est pas suffisante. Ce que Jésus nous offre, c'est une résurrection tout de suite. C'est une résurrection maintenant. Voilà quelque chose qui devrait heurter notre intelligence, qui devrait nous faire nous poser beaucoup de questions. Vous me direz sans doute que j'exagère, comme d'habitude, bon, qu'à force d'élargir la perspective de la résurrection, je la réduis à néant. Et oui, si on applique le mot résurrection à n'importe quoi, il n'a plus beaucoup de sens. Eh bien, allons faire un tour du côté des Écritures. Si vous trouvez que j'exagère en disant que nous ressuscitons, que nous sommes ressuscités, mes frères, allons donc voir un peu les apôtres. Allons voir Jésus lui-même dans l'évangile de Saint Jean. Que nous dit-il ? Au moment où il va ressusciter Lazare, il est sur la route, Marthe vient le rencontrer, puis Marie, sa petite Marie chérie, et que lui dit sa petite Marie chérie ? Elle lui dit, je sais Seigneur, que vous allez le ressusciter au dernier jour. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi a la vie. Voyez cette perspective nouvelle que Jésus donne à cette femme. Il rectifie la conviction qu'avaient déjà les Juifs, qu'avaient déjà les pharisiens du moins. Ils croyaient en la résurrection ultime et c'est dans cette perspective que Marie-Madeleine s'inscrit. Je sais Seigneur qu'il va ressusciter à la fin. Il a bien agi, ce sera donc pour la gloire. Et Jésus lui dit, mais ne te contente pas de cette vision des choses. Il croit, il vit. Voilà cette nouvelle perspective que Jésus nous offre, quelque chose de magnifique. Et c'est ce que Saint Jean, dans l'épître que vous n'avez peut-être pas trop écouté, parce que vous vouliez vous concentrer sur cet évangile magnifique, mais je vous rappelle les premiers mots de cet épître de Saint Jean, premier épître de Jean, que nous venons de lire. La victoire sur le monde, notre victoire sur le monde, c'est notre foi. Le monde chez Saint Jean, c'est le péché et c'est la mort. Le fruit du péché étant la mort. Donc, on pourrait reprendre les termes de Saint Jean en disant, notre victoire sur la mort, c'est notre foi. Saint Jean a parfaitement compris ce qu'enseigne le Seigneur Jésus à la petite Marie-Madeleine sur le chemin du tombeau de Lazare. La vie, maintenant, la résurrection, tout de suite. Il est des textes de l'Écriture qui sont plus explicites si vous trouvez que Jésus est encore un peu obscur. Je suis la résurrection qui croit en moi à la vie. Bon, admettons qu'il y a quelque chose de nouveau, mais l'abbé, vous êtes en train de forcer le texte, il ne parle pas de résurrection. Et d'ailleurs, Lazare va mourir à nouveau. Donc, il n'était pas ressuscité. Eh bien, prenons donc les paroles de Saint Paul à ce moment-là, ce géant de la foi qui a compris les choses autrement plus intensément que nous. Que nous dit Saint Paul ? Vous êtes ressuscité avec le Christ. C'est quand même clair. Et il le dit à plusieurs reprises. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Il en donne le moyen. Ce moyen, nous le connaissons depuis que nous sommes allés au catéchisme. Mais je crois que de catéchisme, nous devrions en avoir quotidiennement pour approfondir ces vérités de foi et vraiment pour en vivre. Je cite Saint Paul, « Par le baptême, vous avez été ensevelis avec lui, et vous êtes aussi ressuscité avec lui. Vous qui étiez morts, il vous a fait revivre. » Mais à force de répéter ces textes toute l'année, à force de chanter des cantiques plus ou moins bien ficelés, à force de ne pas vraiment pénétrer ces textes, nous ne saisissons pas le caractère révolutionnaire, le caractère incroyable de ce qui se passe. Par le baptême, vous êtes mort avec lui et ressuscité avec lui. Il vous a communiqué la vie. Êtes-vous vraiment ressuscité ? Suis-je vraiment ressuscité ? Je veux dire, nous le sommes puisque nous avons reçu le baptême, mais le sommes-nous dans nos mœurs ? Le sommes-nous dans le rayonnement que nous devrions avoir ? Un corps ressuscité, ça se voit, voyez-vous ? Or, vous connaissez la parole de Nietzsche, « Je croirai quand je verrai des chrétiens heureux de l'être ». Eh oui, je croirai quand ils auront des gueules de ressuscité, en un mot. Sommes-nous vraiment conformes à ce qui est en nous ? La vie de Jésus-Christ ressuscité. Mes frères, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Souvent, nous vous avons du baptême une vision un peu étriquée. Le baptême lave du péché originel, le baptême nous rend fils adoptifs de Dieu, frères de Jésus-Christ. Toute formule, mes chers enfants, que vous gagnez à apprendre aujourd'hui, bien sûr. Mais il me semble que nous manquons l'essentiel lorsque nous n'ajoutons pas, et c'est la théologie paulinienne la plus pure, lorsque nous n'ajoutons pas que nous vivons du Christ ressuscité. Voilà ce que fait le baptême, il nous fait sortir du tombeau. Et regardez cette figure de Jésus ressuscité, si nous voulons savoir comment les choses se passent pour nous, les capacités qui sont les nôtres désormais, grâce à cette deuxième nature acquise au baptême, ce Jésus vivant en nous, nous pouvons poser les mêmes actes que Jésus ressuscité. Que fait-il ce Jésus? Il passe les murailles? Ne passerons-nous pas les murailles, mes frères, parce que nous sommes ressuscités, je viens de vous le dire. Oui, nous passerons les murailles, évidemment. Pas encore les murailles de pierre, bien sûr. Ça, c'est pour la gloire à venir, la résurrection à la fin des temps, cette plénitude de la résurrection. Mais nous avons déjà les arts de la résurrection, une avance en écus sonnant et trébuchant, si j'ose dire. Nous sommes capables de passer tous les murs. C'est-à-dire que tous ces liens, toutes ces prisons, les prisons de nos vices, les liens pesants de cette société mortifère qui vit de ce que Jean-Paul II appelait la culture de mort, cette pesanteur de la moquerie sur les chrétiens, toutes sortes de carcans qui nous écrasent, ne sont, parce que nous sommes ressuscités, ne nous apparaissent que comme des illusions. Voilà, je crois, une des conséquences les plus belles de la régénération. Nous sommes capables de passer à travers ces carcans. Ô mort, où est ta victoire ? Dit saint Paul. Ô mort, où est ta victoire ? Quelle prison croit pouvoir détenir quelqu'un qui est ressuscité ? Ça, c'est l'illusion que Satan voudrait, dans laquelle Satan voudrait nous faire tomber. Vois comme tu es pécheur, vois comme cette société est corrompue. Laisse tomber, c'est mort. Nous sommes, mes frères, ressuscités. Rien, aucune fatalité ne peut avoir raison de nous. Aucune. Tu pèches lourdement, tu es ressuscité. Laisse faire le Seigneur en toi, toutes les prisons ne sont que peu de choses par rapport à cette vie qu'il t'a communiquée. Mes frères, si vous n'êtes pas ému par cela, je ne saurais pas quoi vous dire de plus. Il y a encore une autre faculté qui apparaît dans le Christ ressuscité, qui doit être la nôtre, qui est la nôtre, parce que nous sommes nous aussi régénérés, ressuscités par le baptême, d'ores et déjà, c'est la relativité des biens de ce monde. Jésus mange un peu de poisson pour convaincre ses apôtres, et uniquement pour cela, qu'il n'est pas un fantôme. Parce qu'un fantôme ne mange pas de poisson, paraît-il. Bon. Jésus mange du poisson. A-t-il besoin de poisson? Bien sûr que non. C'est, je crois, dans cette petite incise de l'Évangile, ce petite anecdote que nous raconte l'Évangile, une affirmation que toutes les choses dont nous pouvons jouir, toutes les choses dont nous avons même besoin sur cette terre pour vivre et pour bien vivre, ne sont que tout à fait relatives. Nous sommes ressuscités. Le seul pain quotidien qui nous est nécessaire, vous le connaissez parce que vous le demandez, j'espère, à Dieu tous les jours dans le Notre Père. Le pain plus que substantiel, le pain sursubstantiel, quel est-il ? Le pain de l'Eucharistie, le corps du Christ. Je sais que tout un chacun n'est pas comme Marthe Robin à ne manger que la Sainte Hostie et à ne boire que le précieux sang pendant 50 ans, bien sûr. Si Marthe Robin a pu porter ce témoignage, c'est pour nous rappeler, c'est dans un but bien précis, pas pour le simple plaisir que Dieu aurait qu'une femme se contente de manger les saintes espèces et rien d'autre. C'est pour nous porter un témoignage à nous qui sommes ressuscités également. Souviens-toi que rien n'est essentiel comme l'Eucharistie. Voyez ces enseignements magnifiques qu'on peut cueillir au gré des apparitions du Christ ressuscité. Je m'arrête là parce que je pense que ça va comme ça. Et voilà, pour vous dire que vraiment, il me semble que si nous voulons absolument vivre de cet élan pascal, parce que le temps pascal dure 50 jours tout de même, il est plus long que le carême. Si nous voulons vivre de ce temps pascal, adoptons les mœurs pascales. Si nous nous plaignons que cette société va mal, que notre vie est très horizontale, reprenons conscience de cette vérité profonde. Jésus est en moi et Jésus m'a ressuscité, c'est fait. Aucun carcan n'aura raison de moi et les biens de ce monde, pour affriolants qu'ils soient, ne sont pas grand-chose. Seigneur Jésus, je vous rends grâce de cela. de cette résurrection incroyable que vous n'avez pas gardée pour vous, mais que vous avez condescendu à me communiquer. Et pas pour un lendemain incertain, aujourd'hui, Seigneur. Voyez, on me demande souvent comment on peut prier. Voilà, quelle vie peut-on avoir d'intimité avec Dieu ? Il me semble qu'une simple action de grâce comme celle-ci touchera infiniment le cœur de Dieu et nous rendra très heureux. Voilà, entrons donc résolument dans ce temps pascal avec des gueules de ressuscité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.